peut se demander pourquoi, dans la première lecture, Jean, le voyant de l'Apocalypse, est interrogé sur l'identité et la provenance de cette foule de personnes vêtues de blanc. On peut se demander pourquoi, et surtout que Jean répond, mais en fait, c'est toi qui connais la réponse. Parce que connaître leur identité et leur expérience va nous permettre d'être attentifs à leur témoignage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? D'une façon assez naturelle, on sera plus intéressé par le témoignage, imaginons à notre époque, d'un astronaute qui a marché sur la Lune, ou d'un survivant des camps de concentration, ou de l'exorciste du diocèse, que si on nous dit « venez écouter le témoignage de Jean-Michel Dupont qui, pour la première fois l'été dernier, a fait du camping à Mourmelon ». Il y a quelque chose d'un peu extraordinaire d'un côté et de l'autre, je ne suis pas sûr que je vais me déplacer. Or, cette foule innombrable, on nous dit que ce sont ceux qui ont traversé la grande épreuve. Et il est important justement de le souligner parce qu'elle ne nous est pas présentée comme étant composée de personnages célèbres ou d'exceptions. On penserait aux grands personnages de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, David, Isaïe, ou bien de ceux des apôtres déjà martyrs, de saint Étienne. C'est une foule de gens qui ne sont pas passés sous les projecteurs de l'histoire ou de la renommée, mais qui ont passé la grande épreuve de la mort et qui ont vaincu avec la croix du Christ. C'est la foule des saints au sens large. Vous savez, les saints, ce n'est pas seulement les canonisés, ceux qui sont canonisés ne le sont pour être donnés en exemple. Les saints, c'est tous ceux qui sont désormais au paradis, tous ceux qui voient la face de Dieu. Alors, tous les canonisés sont saints, mais il y a bien des saints qui n'ont pas été canonisés et qui voient la face de Dieu. Ils viennent de la grande épreuve, le passage de la mort uni à la croix de Jésus. Ils ont passé, traversé, vaincu l'épreuve. Et donc, quand on prend conscience de qui ils sont, on se dit, leur témoignage n'est pas inutile, il y a quelque chose de précieux dans ce témoignage. Il nous est donné, avec le voyant de l'Apocalypse, d'entendre le témoignage sur leur vie dans la lumière de Dieu, sur l'expérience de leur vie et de leur histoire dans la lumière de Dieu. Vous avez peut-être remarqué ce passage, au moment où ils allaient s'exprimer, commençait par le mot « Amen » et il va se terminer par le mot « Amen ». Je rappelle cette chose toute simple, « Amen », ce mot hébreu, c'est un mot qui signifie « c'est vrai, j'atteste que c'est du solide, je crois que l'on peut s'appuyer dessus, j'ai éprouvé que ça tenait le coup ». Amen, ce n'est pas un mot qu'on dit « je ne sais pas trop » et puis « advienne que pourra ». Amen, c'est un mot qui dit « j'ai pu m'appuyer dessus, j'atteste que l'on peut s'appuyer dessus ». Et donc, ce dont ils parlent, c'est ce dont ils ont fait l'expérience. Ils disent ce qu'ils disent parce qu'ils l'ont expérimenté. Et vous avez peut-être remarqué, leur témoignage est composé de 7 mots. Et ces mots, on pourrait s'amuser à dire, est-ce que vous vous souvenez des 7 mots qu'ils ont prononcés ? Et généralement, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre immédiatement. Parce que quand on a un enchaînement de mots, comme ça, on n'arrive pas du tout à reconnaître. C'était, je vous redis ces 7 mots une fois, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. 7 mots qu'ils appliquent au Seigneur notre Dieu, 7 mots articulés en fait autour du 4e qui en est le centre, action de grâce, qui en grec se dit Eucharistia. Eh bien, je vous propose de regarder ces mots deux à deux, pour entrer dans ce témoignage qu'ils nous donnent de leur vie dans la lumière de Dieu. Parce qu'on a ici, justement, un éclairage de notre vie au ciel et de notre histoire revue dans la lumière du ciel. Louange et force, le 1er et le 7e. Louange qui est dit « eulogia », bonne parole, parole qui a un sens. C'est une exclamation qui est importante parce qu'elle est tout le contraire de l'homme qui maudit le jour de sa naissance, de l'homme qui se lamente de n'être pas mort-né, dont la vie semble absurde. Il voit sa vie dans la lumière de Dieu et peut-être avait-il, durant l'épreuve, maudit le jour de sa naissance, mais désormais il énonce ceci, « bonne parole,
Tu m'as donné la vie, Seigneur. C'était une bonne parole, une bonne parole. » Ce témoignage qui nous est donné par ceux qui ont passé l'épreuve est vivifiant pour qui se trouve encore dans l'épreuve ou ne voit plus de sens à sa vie. Ce témoignage atteste de la force de Dieu, si étrange, parce qu'elle passe par la faiblesse de la croix. Faiblesse de la croix et force de l'amour. La force de Dieu est révélée, éprouvée. Bonne parole, louange. Que dis-tu de l'existence qui t'a été donnée ? Louange, bonne parole dite par Dieu. Et donc, une parole d'espérance sur notre vie relue dans la lumière de Dieu. C'est ce qu'il témoigne. Gloire et puissance. Vous savez, en hébreu, la gloire, ça se dit kavod. Alors kavod, c'est un mot qui signifie une chose qui a du poids, quelque chose qui a une assise. Kavod, c'est le contraire de ce qui est évanescent. Vous savez, la buée, vous soufflez sur une vitre en hiver, vous avez de la buée un instant et l'instant d'après, elle a disparu. Kavod, c'est ce qui s'oppose aussi, on pourrait dire, à ce qui est ballotté par le vent, comme une boule de paille. C'est ce qui se maintient, à l'inverse du château de sable, dont toute trace disparaît après le passage de la vague. Gloire à notre Dieu, parce que ma vie avec lui n'est pas devenue transparente, ma vie n'est pas devenue insignifiante. Elle a du poids, elle compte, elle laisse une trace. La gloire de Dieu, le poids de Dieu, la stabilité de Dieu s'est manifestée et se manifeste dans sa vie. Voilà encore une chose qui nous est annoncée. Notre vie ne passe pas simplement comme l'herbe des champs qui est là un moment et le moment d'après n'existe plus. Notre vie unie à Dieu laisse une trace. On voit combien cette chose a pu être importante au cœur de l'homme dans l'histoire. Regardez comment chez les païens, par exemple, les pharaons se sont construits des tombeaux immenses avec les pyramides pour laisser une trace dans l'histoire. Et pourtant, leur trace ne recouvrait que des ossements desséchés. Voilà qu'ils sont vivants, ceux qui découvrent que leur vie laisse une trace en Dieu. Ils sont vivants, ceux qui contemplent la trace que leur vie laisse. Et comment est-ce que cela est possible ? Cela vient de la puissance de Dieu, c'est-à-dire la puissance, en grec la dynamis, qui a donné aussi le mot dynamis, la capacité à donner un développement. Ce qui est capable de grandir, ce qui est capable de, vous voyez comme un arbre qui d'abord une graine qui va grandir et qui va être capable de porter du fruit. Dieu est celui qui est capable de transformer les plaies mortelles en plaies glorieuses. Il a donné un développement. Et là encore, dans nos vies, ces événements qui peuvent sembler des plaies mortelles, ces événements où on se dit « mais j'ai été amputé simplement, qu'est-ce qui peut jaillir ?» D'autres cela, qu'est-ce qui peut jaillir de bien ? Parfois c'est mon contexte familial qui a été ravagé et je me dis, qu'est-ce qui peut jaillir de bien ? Je n'en ai que de la souffrance et de la peine. Il témoigne de cette puissance de Dieu qui transforme les plaies mortelles en plaies glorieuses. Mais la puissance de Dieu, ce n'est pas simplement de redonner, j'allais dire, une chance à notre histoire, c'est aussi cette capacité à déployer, à renouveler gratuitement. Vous savez, parfois on a des images, j'allais dire, infernales du ciel ou du paradis. On a l'impression que c'est le moment où il ne se passera plus rien. Alors, vous entendiez peut-être autrefois la boutade de... à chaque fois que j'essaie de la dire, je ne me souviens plus de son nom, de Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Parce qu'on a l'impression que... mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va juste chanter des cantiques en boucle comme ça, mais c'est insupportable. Alors que la vie au paradis, au contraire, c'est une vie où l'émerveillement est présent. Nous n'aurons jamais fini de faire, j'allais dire, de nous émerveiller de Dieu et de notre communion avec Dieu. Prenez cette image musicale où vous avez justement un artiste qui interprète sa partition. Il l'a joué, peut-être qu'il va la recommencer ensuite, non pas parce qu'il va se dire « Ah, je l'avais mal joué, j'avais raté une note, j'avais fait une fausse note ». Non, simplement parce que cette même partition, elle peut être interprétée différemment. peut-être en modulant le rythme, peut-être en modulant les harmonies, peut-être avec un nouvel instrument, peut-être avec un nouveau partenaire. Regardez comment dans l'Écriture, on nous manifeste justement ce renouvellement de la joie. Prenons l'exemple des anges. On pourrait dire, mais les anges, ils voient la face de Dieu, qu'est-ce qui pourrait encore les réjouir ? Et le Christ, dans l'Évangile, nous dit, à chaque fois qu'un pécheur se convertit, il y a de la joie pour les anges du ciel, il y a un émerveillement. On nous parle au moment de l'incarnation de ce chant de joie des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils voient, ils sont émerveillés par quelque chose qui les surprend, eux-mêmes qui sont dans la gloire de Dieu. Nous avons le signe, l'attestation que bien loin d'être le moment où on tourne en rond, où il n'y a plus rien à faire, l'éternité bienheureuse du paradis est le moment où l'émerveillement, justement, trouve sa liberté, où la créativité trouve, justement, sa liberté. Gloire et puissance à notre Dieu. Sagesse et honneur. La sagesse, la capacité à savoir faire, à trouver, justement, un sens, à trouver un passage. C'est ce que le Seigneur manifeste. On a parfois cette expression, le Seigneur sait écrire droit avec les lignes courbes de nos vies. Là où je pensais ne rien apprendre, j'ai appris. Là où je pensais ne rien recevoir, j'ai reçu. Honneur. L'honneur, c'est la capacité à manifester ostensiblement du respect. Et c'est quelque chose justement qui est un acte d'unité quand on rend honneur. Je me souviendrai d'une chose, c'était mon premier voyage, c'était encore en 1989 en Pologne. On récoltait des médicaments pendant l'année et l'été on allait les apporter en Pologne à ce moment-là. Et de découvrir les messes, c'était le mur de Berlin était tombé, mais l'Union soviétique était toujours en place et le pouvoir soviétique était toujours en place en Pologne. Et nous participions à une Eucharistie là-bas. Et c'était saisissant de voir ces églises bondées, et une chose dont on n'avait plus trop l'habitude en France, au moment de la consécration, tout le monde se mettait à genoux, des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Et ce signe était tout simple, mais il manifestait, il se passe quelque chose. Le Seigneur Jésus se rend présent, il est devant nous. Et ce signe qui était fait par tous, justement, rendait honneur au Seigneur et donnait à voir. Et donner à voir, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux. Regardez, peut-être quelqu'un qui vous a permis de découvrir un tableau. Vous aviez déjà vu le tableau, oui, vous saviez qu'il était là. Et puis il vous a dit, mais est-ce que tu as vu ce détail? Est-ce que tu as vu cette ombre? Eh bien, quand on dit honneur à notre Dieu, c'est chacun justement qui vient manifester ce détail particulier de l'action de Dieu dans sa vie. Si vous êtes ici aujourd'hui, alors il y en a peut-être qui ont été poussés par une fourche pour dire tu viens ici, sinon tu prends un coup de pic ou de fourche. Il y en a quand même beaucoup qui sont venus parce qu'ils ont une histoire d'amitié avec Dieu. Dieu est intervenu dans leur vie et c'est pour ça qu'ils sont là. Mais combien de secrets? J'allais dire, c'est quelque chose qui vous appartient en propre à chacun et pourtant qui est précieux et qui méritera d'être partagé un jour. Voilà comment Dieu a agi pour moi. Quelle merveille ! Honneur à notre Dieu, je manifeste ce que j'ai reçu de Dieu. Et cela s'articule autour de l'action de grâce. Ça veut dire merci. Un merci qui ne va pas simplement être vieux. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait, mais c'était il y a longtemps. C'était un merci qui porte du fruit aujourd'hui encore. C'est un merci dont justement l'arbre qui a été planté donne de saison en saison un fruit nouveau que nous partageons. Et ce fruit, nous pouvons le montrer, nous pouvons le partager. Et ce fruit, ultimement, c'est le Christ révélé sur cet autel que nous ferons monter vers le Père, par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, dirons-nous. Et nous le dirons parce que en nous se déploie la ressemblance avec Jésus. Vous avez, chacun, vous les baptisés, la capacité d'être le visage et les mains de Jésus dès aujourd'hui, d'être la ressemblance de Jésus pour ce monde. Parfois, nous l'avons oublié ou nous ne le croyons pas. Les bienheureux du ciel nous le rappellent. cette action de grâce, ce merci parce qu'ils voient et ils donnent à voir le visage de Jésus et ils reçoivent la plénitude de l'amour du Père. Frères et sœurs, en cette solennité de tous les saints, puissions-nous accueillir quelque chose de ce témoignage des bienheureux qui donne justement ce témoignage de l'action de Dieu dans leur vie, non pas autrefois mais au présent, de cette surabondante nouveauté et joie que le Seigneur nous partage. Que quelque chose de cette louange, de cette gloire, de cette sagesse, de cette action de grâce, de cet honneur, de cette puissance ou de cette force de Dieu, de notre Dieu, puisse retentir dans notre vie pour que nous osions accomplir notre vocation de chrétien, appelés à la sainteté. Seigneur, fais-nous avancer sur ce chemin du royaume. Ils sont nombreux ceux qui nous ont précédés. Avec ta grâce, nous voulons les rejoindre. Amen.